J'ai le privilège de me retrouver en face de Jacques Haute-Mesguine. Bonjour Jacques.
Merci et j'espère être à la hauteur de l'interview.
Bien sûr, avec grand plaisir. Jacques, donc vous allez prendre quelques minutes pour vous présenter aux auditeurs de la radio du cinéma. Vous me glissiez à l'oreille que vous étiez un photographe avant d'être un cinéaste.
Mais parce que j'avais à l'époque beaucoup de difficultés. À l'époque, l'ouverture pour faire ce métier, soit de cadreur, soit de réalisateur. Moi, je voulais être plutôt du côté de la caméra. Mm-hmm. Et comme on arrivait du Maroc, je n'avais pas les nécessaires requis au niveau des études pour entrer. À l'époque, ça s'appelait l'IDEC. Donc, je n'avais pas encore passé le bac, je n'avais pas encore passé quoi que ce soit. Et il a fallu que je travaille assez tôt et je rêvais d'être, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait cadreur, j'appelais ça caméraman. Et donc, pour être caméraman, il n'y avait pas d'autre. Je trouvais que la photo, comme j'aimais bien faire de la photo, mon père faisait beaucoup de photos. Et je me suis dit, tiens, voilà, une bonne occasion de gagner sa vie avec ce que j'aime. Et donc, j'ai commencé à travailler assez jeune. Et comme apprenti, je suis rentré dans une agence qui s'appelait, qui a été une des plus grandes agences de presse, Keystone Press, okay. Qui était franco-anglaise. Mm-hmm. Et ils m'ont pris comme apprenti, à l'époque ça se faisait comme ça. Et donc grâce à ça, j'ai pu apprendre le tirage argentique.
D'accord.
Et je ne voulais pas me cantonner au tirage, parce que le tirage c'était un vrai métier aussi. Et j'ai pris de moi-même quelques appareils photo, parce que... À l'époque, j'avais des reporters photographes qui étaient âgés. C'est terrible parce que l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est l'âge qu'ils avaient. Donc je me dis aujourd'hui, quand on me regarde, les jeunes, ils disent, c'est un cinéaste âgé. Et ils me disaient, ils étaient très, très attachés à continuer le métier. Donc dès qu'ils voyaient quelqu'un qui était intéressé, ils disaient, si tu veux pas rester faire du tirage, viens avec nous. Alors, donc je les suivais, je prenais l'appareil avec eux. Et à un moment, eux, ils en avaient marre de faire le conseil des ministres 150 fois, une avant-première 1000 fois. Mm-hmm. Ils me passaient les appareils. Et ils me disaient, tu dirais au patron. Alors moi, je faisais les photos. Et en voyant les photos, ils me disaient, dis donc, c'est vachement bien. Et ils sont en train de se douter que c'est pas moi. Alors donc... Le secret a été éventé et l'agence m'a dit vas-y, fais des photos, on verra si on les prend ou on les prend pas. Donc j'ai commencé comme ça, par moi-même, et plus tard, avec un copain, on a monté un studio de reportage qui n'a pas tenu longtemps parce que j'ai eu envie, grâce à ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient caméramans et qui m'ont dit mon petit gars, si tu veux faire du cinéma, il ne faut pas que tu fasses du reportage. Il faut que tu rentres sur un plateau. Comment on fait? Ils m'ont donné des adresses, donc j'ai téléphoné. J'ai rencontré des gens très sympas. Il y avait des ouvertures très, très professionnelles. Ce n'était pas du tout « tu vas faire ton court-métrage » comme on dit aujourd'hui. C'était « tu vas apprendre le métier ». Oui. Et je me rends compte que vraiment aujourd'hui, cette notion d'apprendre le métier, d'être assistant, d'être... À l'époque, il y avait une hiérarchie. Il y avait troisième, deuxième, premier. Et c'est l'expérience qui faisait qu'on montait dans la hiérarchie. Tout ça a été complètement banni parce que d'abord le matériel s'est allégé d'une façon incroyable. À l'époque, pour prendre une caméra, il fallait trois machinistes. Pour mettre un blimp pour le son, il fallait qu'il soit là tout le temps. Les travelling, c'était quatre machinaux qui devaient ça. Les électros, c'était des grands balèzes, quoi. Sinon, ils ne pouvaient pas bouger les arcs. On appelait ça les arcs. Donc le métier était très lourd, donc pas féminin une seconde, et à part la script, qui était donc obligatoirement féminine, et les monteuses au cinéma. Et moi, j'ai commencé, je marchais bien comme photographe, même Paris Match me faisait des clins d'œil, j'ai posé les appareils photo et j'ai commencé à faire du cinéma. Et donc à aucun moment j'ai voulu m'arrêter de tourner. Donc j'étais un des réalisateurs les plus jeunes, à 28 ans, j'étais déjà un réalisateur. Bon, bien sûr, c'était pas les longs métrages, c'était surtout les choses que les gens refusaient, c'est-à-dire les pubs, à l'époque ça ne se faisait pas, où on était réalisateur de pubs, où on était cinéaste. Moi, je n'ai pas hésité, comme j'ai fait pour la télévision. Après mon premier long-métrage que j'ai fait chez Alain Sard,
on peut rappeler le titre, hein, Prunelle Blues.
Avec Michel Bougenat, qui venait de sortir de Trois hommes et un couffin. Et Vincent Lindon, qui était vraiment débutant, quoi, qui j'ai trouvé au cours Florent, dans l'école de Francis Huster. Et j'écrivais un scénario pour Francis Huster. Et il me disait, ah, mais si tu veux voir des jeunes comédiens, viens voir. J'ai un garçon qui a des tics, mais qui est formidable, qui s'appelle Vincent Lindon. Donc j'ai pris Vincent. On s'est bien entendu, comme un chien fou, quoi. Et ils sont bien entendus avec Michel Bougenat. Et donc, Bougenat venait de faire un succès, un carton avec...
Trois hommes et un couffin. Colline Serrault,
donc. Film de Colline, qui a eu un destin où Michel ne devait pas le jouer. Il y avait Roland Giraud non plus. Tous les acteurs français de l'époque dits bankable, comme aujourd'hui, Auteuil et compagnie, avait refusé. Le seul qui était resté, qui avait accepté, c'était André Dussolier, qui n'était pas encore un grand acteur, mais qui était un très très bon acteur. Donc le trio a marché merveilleusement bien. Colline, c'était une de ses premières comédies. Hein. Elle ne faisait pas trop ce genre de cinéma. Donc c'est pour ça que les gens, et même le producteur, c'était son premier film. Et quand Alain Sard, qui était producteur du mien, a vu le film, il a dit « Ouais, ça va faire quelques entrées. On va accepter une sortie en été, ça fait rien. » À l'époque, les films qui sortaient en été étaient comme sacrifiés, quoi, parce que c'était vraiment... Les gens étaient à la plage et les sorties de Paris étaient sacrifiées. Et alors, le succès de Trois hommes et un couffin a étonné tout le monde, parce que je crois que dans les carrières cinématographiques, je crois que c'est le seul film qui a démarré moyennement, parce qu'il y a la référence du mercredi... qui est très importante, à 14h ou le matin. Si le film fait un certain nombre d'entrées, on sait que sa carrière, elle est bonne. S'il n'a pas, on sait que c'est foutu, ou que ça ne va pas être le carton. Et le film, Les Trois Hommes, a commencé...
C'est l'entière des pronostics.
Oui, c'est les pronostics. Et le film de Bougenat, on s'appelait avec Michel, mais ouais, ça ne marche pas bien, je lui dis, mais t'inquiète. Et moi, j'étais persuadé que ce film allait marcher. Et la comédie est une comédie, mais qu'on peut revoir encore aujourd'hui sans problème.
Oui, tout à fait.
Elle a une
intemporanité.
Une valeur humaine incroyable. Mmh. Elle a vraiment apporté ça à ce film, et c'est vraiment un modèle. Après, elle en a fait encore d'autres, mais même ses films avant ont été magnifiques.
Alors Jacques, pour revenir à votre carrière, donc vous êtes photographe, ouais. Et puis on vous fait confiance pour faire un certain nombre de réalisations publicitaires, ouais, etc. Et au fil de l'eau, donc vous faites des rencontres les plus importantes possibles pour faire évoluer votre carrière. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour la réalisation d'un film donc, qui s'appelle « Le choix du pianiste ouais. ». Parlez-nous un petit peu de... Déjà, bon, vous avez des origines, vous êtes juif.
Ouais.
Ce film, évidemment, parle de la Deuxième Guerre mondiale,
oui.
on est au démarrage de la Deuxième Guerre mondiale, et la musique va venir finalement être un peu, s'inviter à la table pour être potentiellement quasiment, on va dire, le fil conducteur de tout ce film. On est bien d'accord ?
Ah, complètement.
Voilà, et en particulier l'œuvre de Chopin.
Absolument.
Voilà. Comment est-ce qu'une histoire comme celle-ci, j'imagine que vos références familiales peut-être ont une incidence dans tout ce, dans ce scénario, dans cette histoire-là, mais concrètement, ce qui est intéressant, je pense, d'évoquer avec vous, c'est comment naît une histoire dans la tête d'un réalisateur, et qu'est-ce qui fait que cette flamme s'allume à un moment donné et qui va générer, en fait, une histoire aussi forte et aussi prenante que ce film-là.
Chez les Juifs, il y a les Askénazes et les Séfarades.
Tout à fait.
Moi, je viens du Maroc, du tribu berbère juive.
Donc vous êtes séfarade, et les Ashkénazes, c'est plutôt les Juifs de l'Est.
Voilà.
Voilà, exactement.
Et en rencontrant Nelly Kavsky, j'ai touché du doigt...
On peut te présenter Nelly
Pardon,
Kavsky,
c'est la productrice du
voilà.
film, et que j'ai rencontrée, je vais vous faire le parcours, vous allez voir. Moi, mon premier film, Prunelle Blues, c'est un film séfarade.
D'accord.
C'est vraiment Bougenat, qui est un petit projectionniste dans une salle de cinéma, qui tombe... dans un trafic de drogue. À l'époque, déjà, j'étais assez dans le cinéma dans lequel il travaille, d'accord, il ne sait pas qu'il y a un trafic de drogue.
D'accord.
Et il y a une stripteaseuse dans ce cinéma, parce qu'à l'époque, il y avait deux, trois cinémas qui faisaient des striptease entre deux films.
Entre deux projections.
C'était un cinéma qui s'appelait Le Midi-Minuit.
D'accord.
Qui était un cinéma qui a donné même son nom à une revue.
Un magazine de cinéma, absolument.
Et qui était un lieu de référence. Donc moi, j'y allais au Midi-Minuit. Je ne sais pas pourquoi ils passaient des films, des striptease entre deux films. Et ça m'a inspiré cette histoire de ce petit projectionniste amoureux de la stripteaseuse. Et donc c'est une aventure séfarade. D'accord. Parce qu'il y avait des acteurs pieds noirs, il y avait tout ça. Et je rencontre...
Donc vous nous parliez de Nelly, donc ?
Donc voilà. Et donc après ce film, j'avais écrit un deuxième long métrage que Sard voulait aussi produire. Et ce film-là, on n'était pas d'accord sur le casting. Il voulait une star, moi je voulais... Je ne dis pas le nom parce que c'est un grand acteur qui vient de mourir. Moi, j'aime bien travailler avec des acteurs qui sont neufs, parce qu'ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de passif, ils n'ont pas déjà donné certaines choses.
C'est le cas dans votre film.
Voilà.
Le choix du pianiste révèle des acteurs et des actrices dont le parcours est émergent, mais plein d'espoir.
Eh bien ça, j'adore ça. Ça, c'est vraiment... Une de mes passions, c'est de découvrir vraiment des acteurs.
Vous êtes un découvreur, Jacques.
Oui, mais j'aime bien aussi les acteurs qui ont du vécu, qui ont du cuir, comme Doreton.
Bien sûr.
Merveille. Quoi.
Bien sûr.
Le moteur, il est là. Quoi. Ça y est, on a parlé. Bon. On n'a pas parlé pendant des heures sur quoi que ce soit.
Doreton, qui est le père, donc,
le père dans le film
de l'acteur principal.
Du futur pianiste.
Voilà.
Et de Marie Doreton, sa fille, parce que quand la fille que j'ai prise pour jouer le rôle de la jeune fille, elle ne pouvait plus faire le film parce qu'elle avait une série qui lui tombait dessus. J'ai dit, mais qui peut faire mieux que la fille de Doreton, jouer la fille de Doreton? Alors j'ai pris Marie, et j'avais du Paul, elle était libre, donc c'est un rôle pas sympathique, hein. Vous allez voir le film, c'est pas sympathique. Donc après ce film-là, donc j'ai une période de latence comme ça.
Après votre premier film,
film qui a bien marché, quoi. Il n'a pas fait Trois hommes et un couvain, mais enfin ça m'a permis quand même de refaire un deuxième.
D'accord.
Et on ne se mettait pas d'accord avec Alain, et Alain a des déboires avec un film qu'il a produit qui était Harem, qui lui a coûté sa société de production.
D'accord.
Et qui était un très beau film, mais bon, voilà. Et donc il m'appelle, il me dit, voilà, je te rends les droits, ce qui était vraiment rare qu'un producteur, il ne les a pas gardés. Fais ce que tu veux du film, moi je rentre chez Canal. Alors il rentre chez Canal, donc il disparaît pour moi, il disparaît de ma carrière, et donc j'attendais de trouver un autre producteur. Et le hasard fait que je rencontre un soir, un dîner, Nelly Kavski, qui rentre qui faisait aussi de la pub, et qui était productrice et du long métrage, qui a fait des comédies. Et qui rentre chez Tel France, elle me dit, j'ai jamais fait de télé. Je lui dis, ben non, on fait pas, écoute, c'est pas bien. Donc elle rentre chez Tel France, et un jour, elle m'apporte un scénario écrit par Pierre Huitéroven, qui était le scénariste de Lelouch, qui a fait tous les films de Lelouch, et qui était un scénario d'après un bouquin qui s'appelait Tropique du Valium, que je voulais faire au cinéma.
D'accord.
Et personne ne voulait de ce scénario, de cette histoire, parce que c'est une femme qui prend des Valium. En attendant, l'homme qu'elle aime la quitte, mais il lui promet de passer Noël avec elle. Mais le temps qui s'écoule entre Noël et l'autre, et le prochain Noël, elle prenait des Valium. Donc cette femme qui s'est auto-détruite par amour. Le bouquin a eu du succès, à l'époque, il a eu des prix, et moi j'ai trouvé cette histoire incroyable. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le faire, je vais trouver une production. Et je ne m'entendais pas avec la femme, la pauvre, elle était dans un état. Et Nelly vient me voir avec ce scénario, d'après le bouquin. Je lui dis, mais comment il a fait, Pierre? Il a dit, à l'époque, il pouvait le faire, lui, moi, je ne pouvais pas. Il a dit à la fille, je fais mon scénario, et puis ton bouquin, c'est ton bouquin. Et c'était remarquable. Donc elle me dit, si tu veux, on peut le faire pour la télévision. Je dis, jamais tourné, moi, à la télévision, parce que les temps de tournage de la télévision, c'est 25 jours, alors qu'au cinéma, c'est 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et mais le sujet me plaisait tellement. Et puis, on l'a fait lire à Thérèse Lyotard et à un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Maxime Leroux, qui était une vedette de télévision déjà. Et elle me dit, on y va. Alors, j'ai pris un chef opérateur, André Naud, qui était un très, très, très grand chef opérateur de télévision, mais qui travaillait aussi de la lumière. Parce que moi, comme photographe, mais aussi comme amateur de peinture, mes références sont toujours les lumières des peintres, pas les impressionnistes, enfin Georges de Latour, enfin des gens comme ça, j'aime bien. Et ça, c'est mes origines.
C'est oui, Farah. C'est ce qui vous inspire dans votre propre création.
Voilà, moi j'adore la lumière qui rentre par les fenêtres.
Oui, je comprends.
Et parce que j'ai grandi dans ça. Nous, dans les pays chauds, on ferme les fenêtres.
Bien sûr.
On ferme les volets pour se protéger du soleil.
Bien sûr.
Et donc cette lumière m'inspire tous mes films.
D'accord.
Jusqu'à
aujourd'hui. Ça, c'est une vraie information.
Ouais. Et jusqu'au choix du pianiste où vraiment il y a.
Oui.
Il y a
on ressent cette lumière un peu ponctuelle, qui vient comme ça lécher les comédiens.
Je fais passer les journées comme ça.
D'accord.
Et quand le chef opérateur entre dans cette idée-là, moi, je n'aime pas les projecteurs sur le plateau. Voilà. Je n'aime pas qu'on se prenne. À l'époque, il y avait plein de câbles partout. Je ne supportais pas. Vous avez découvert que j'aime faire des plans-séquences.
Et les plans séquences. Oui, vous êtes connu pour ça, entre
voilà.
guillemets.
Et les plans séquences demandent du déplacement.
Bien sûr.
Voilà. Et moi, je.
Pour rappeler aux auditeurs, un plan séquence, en gros, c'est une scène où la caméra tourne en continu.
Voilà.
Pour que l'émotion perdure à travers la même unité de plan. Hein, voilà. On est bien d'accord.
Alors, ça veut dire que le comédien est en liberté.
Oui.
Avec comme une obligation de déplacement, parce qu'on a un découpage, en principe, sur
d'accord.
une scène. Gros plan, plan moyen, plan large, et puis on rentre là-dedans ou on rentre pas. Il y a un metteur en scène qui s'appelle Max Ophuls, qui a fait La Ronde, qui a fait des films comme ça, et qui a fait une carrière aux États-Unis après, qui est pour moi la référence essentielle de mon
travail. Plan-séquence.
Du plan-séquence. Et à l'époque, la caméra, elle faisait pas 500, 1 kilo comme aujourd'hui.
Oui.
Elle faisait presque 12 kilos. J'étais halluciné. C'est-à-dire, il fait le découpage en direct. Il part du comédien en gros plan. Il recule, le comédien repart et lui, hop, il part tout de suite sur les gens qui le regardent et on repart après sur l'autre qui doit lui donner la réplique qui est au fond.
C'est ce qu'on appelle du tourné-monté.
C'est du tourné-monté. Exactement, voilà.
Ouais,
donc ça donne au comédien une liberté pour bouger et c'est pas théâtral, mais ça donne ce ton au comédien de liberté qui est absolument l'intonation qui est choisie de lui. Mais avec moi, parce que s'ils ne se sentent pas à l'aise, il y a des comédiens qui ne peuvent pas faire des plans-séquences. Ils ne savent pas. Ils sont habitués à s'asseoir ou être debout. Ou aller. Parce que prendre un verre d'eau et le boire, dire la réplique, repartir de l'autre côté, ça a l'air comme ça naturel, mais il y a des comédiens qui sont incapables de le faire. Et des opérateurs, des chefs opérateurs qui ne peuvent pas éclairer. Et comment je fais ? Tu te débrouilles, tu éclaires par les fenêtres, et on aura une lumière naturelle comme ça qui traverse le plan. Et ça, je ne l'ai jamais quitté. Alors, j'avais des chefs opérateurs avec qui j'ai beaucoup travaillé, comme Romain Winding. Donc, j'ai ramené à la télé des gens de cinéma qui adoraient travailler avec moi. Romain Winding, qui vient de décéder, le pauvre chéri, et Yves Lafaille et d'autres. Et on faisait un travail quasiment cinématographique.
Enfin, vos téléfilms ont plutôt ressemblé à des longs-métrages,
exactement.
Entre guillemets, déguisés. Quoi.
Voilà. Parce que moi, je ne peux pas me contenter venant d'un milieu modeste, je me suis dit, bon, de toute façon, si je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire dans cette espèce de regard sur la télévision méprisant, parce que moi, j'ai grandi avec la télévision aussi.
Bien sûr.
J'ai pas grandi comme ça. J'ai fait mes. Je suis ce qu'on appelle en anglais self-made man. Je me suis fait tout seul.
Ouais.
Et la télévision m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque, il y avait des gens comme Claude Santelli qui faisait une émission qui s'appelait Le théâtre pour la jeunesse, que je regardais tous les dimanches avec attention quand j'avais 16 ans, 17 ans, que je commençais à faire de la photo, que je rêvais de cinéma. Et je découvrais les acteurs. Et les acteurs de l'époque, c'était Galabru, c'était Serrault, c'était des gens qui faisaient vraiment du théâtre et qui venaient à la télévision faire du théâtre sans mépris. Alors qu'à l'époque, il y avait Marcel Bluval qui a fait le Don Juan le plus magnifique avec Piccoli, avec Claude Brasseur, qui est encore regardable. On appelait ça, avec mépris, l'école des buts de Chaumont. Alors donc, les réalisateurs étaient au but de Chaumont et les réalisateurs qui faisaient de la télé, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Quoi. Mais dit... a été sensible au fait que Luc Béraud, Bernard Stora, Laurent Edman, j'en passe des meilleurs,
vous ai rejoint
Oui, c'est des amis, c'est toujours des amis. Mm-hmm. Et ils m'ont rejoint en me disant, ouais. Mais Jacques, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu veux attendre 3 ans pour faire ton long métrage?
Oui, quand vous dites 3 ans, c'est qu'en fait, effectivement,
oui, entre
quand on veut réaliser son long métrage, il y a une exigence de temps qui est voisine à 3 ans.
Ah oui, si donc, on a 3 ans, ouais. C'est vraiment de la chance.
Oui.
Sauf si on est une star, un média star, qu'on a fait des millions d'entrées et mm-hmm. qu'on vous attend avec 10 films. Vendu d'avance, mais non, que si on est un bon metteur en scène et si on a des bons succès, jamais un film. Vous voyez la carrière des cinéastes, sauf à Hollywood, où il faut entre 2 ans et 3 ans entre chaque film. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là?
Voilà, c'est ça.
Et là, moi, je me suis. Et en plus, on apprend son métier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. Et je pense qu'on devient vraiment un metteur en scène et un auteur. En travaillant comme metteur en scène, même sur des projets qui ne sont pas écrits par moi-même. Après, bon, j'ai fait aussi un gros travail de scénariste, où j'ai appris avec des scénaristes comme Michel Lebrun, des vrais scénaristes, quoi. Des types qui écrivaient pour Belmondo ou pour Eddie Constantine. Après, le mépris est venu parce qu'il y a eu Godard, il y a eu tout ça, et on est des auteurs, on prend une caméra et on se débrouille. Mais à part Godard, Truffaut, il était un scénariste normal, à part Eric Rohmer, mais Rivette, tout ça, c'était des auteurs, des vrais écrivains, mais pas des techniciens. Et Besson, quand il est arrivé, Luc, au cinéma, il a apporté vraiment cette technique originale et d'auteur, quoi, voilà.
Oui, ce narratif un peu particulier. Ouais.
On appelle ça des films d'auteurs populaires.
Populaires. Voilà. D'accord. Alors, vous évoquez donc Nelly qui ne vous a jamais quitté pour le film, puisqu'elle vous accompagne aussi pour ce film Le Choix du pianiste.
Hein. J'ai un mauvais caractère. Et les producteurs, quelquefois, ils me lâchent très vite au bout de 6 mois de préparation. Parce
d'accord.
Que moi, j'ai une éthique. Je fais le film au prix que vous voulez, si vous voulez, mais au moins que ça soit sur l'écran. Parce que je ne veux pas dénoncer quelques-uns, mais ils font vraiment des films pour gagner de l'argent. Moi, je ne fais pas des films pour gagner de l'argent. Je gagne ma vie très, très bien quand c'est possible. Mais ce n'est pas mon but primordial.
Mmh, voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question. On s'est un peu évadé, là. Mais je vous ai demandé, en fait, comment est-ce que cette histoire du choix du pianiste a germé dans votre tête? Quelle petite flamme s'est allumée un matin ou un soir? Et vous êtes dit, tiens, je vais m'intéresser à ce moment d'histoire et j'ai envie de traiter ça de telle manière.
Et écoutez, je vais vous dire, quand on fait du vélo, on ne voit pas qu'on va tomber.
Oui.
On fait vraiment
pédale. On n'y pense pas, en tout cas.
On n'y pense pas. Donc, quand on veut faire un film, on ne pense pas à tout ce que vous dites. C'est très beau, j'aimerais bien arriver un jour sur un scénario. Moi, j'ai une idée de film, c'est un personnage qui d'accord. m'arrive, comme ça.
En l'occurrence, c'est lequel qui est arrivé sur ce film-là ?
Le pianiste.
Ah, bien sûr.
Le pianiste, ça me travaillait depuis longtemps. Ouais. Et j'ai fait une série avec Ruggero Raimondi. Ruggero Raimondi m'a choisi, au moment où j'allais faire mon long métrage, il avait envie de faire de la télévision, de faire une série à l'époque. Et il a vu 2 téléfilms à moi, Le rêve d'Esther, qui a été un gros succès de télévision, et Julien l'apprenti, où j'ai découvert Gaspard Ulliel. Gaspard.
Le regretté, oui.
Qui est pour moi un déchirement de ce qui lui est arrivé, c'est comme mon fils, quoi. Et il voulait travailler avec moi. Alors je lui dis, moi, j'ai pas le temps, j'ai des projets. La chaîne m'appelle, appelle Nelly pour dire, est-ce que tu as un projet? Et Ruggero veut travailler avec Jacques. Et alors, j'ai dit, j'ai pas le temps, mais il veut me voir. Ah, bah, je dis, bon, bah, on va le voir. Donc, je vois, et j'avais une grande admiration. Moi, j'adore l'opéra, j'adore Ruggero. Et j'étais très ému et très fier d'être choisi par lui, mais j'ai rendez-vous avec lui pour lui dire que je ne le ferai pas, son projet. En plus, c'était un gros projet, et il voulait. C'était 2 fois 90 minutes. Donc. J'arrive et cet Italien merveilleux avec cette générosité, j'allais dire séfarade presque, comme Roger Hanin quand il voyait, Jean, viens ici. Mais c'était pas Roger, c'était Ruggero, 2 mètres, 1m90, il me prend dans ses bras. Ouais. Moi j'allais lui dire, oh cher maître, j'ai une grande admiration pour vous, c'est lui qui me prend dans ses bras. Maestro, vous êtes un grand. Alors on travaille quand? J'étais cuit. c'était foutu.
Ouais.
Je ne peux pas dire à ce monstre,
bien sûr.
Mais non, va en italien, va chez toi, laisse-moi tranquille. On est resté 2 heures à parler, il ne me quittait plus.
D'accord.
Et j'ai découvert un type chaleureux, d'une gentillesse, d'un amour. Bon, c'est un chanteur, point
bien
barre.
Sûr,
quoi. Il
n'est
pas autre chose. Mmh. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même dommage de rater ça.
Et alors donc, par rapport à cette
alors
histoire...
Alors donc, cette histoire m'a fait entrer en contact vraiment physique avec les grands orchestres, avec les...
Ça a allumé une lumière autour du monde de la musique.
Voilà. Alors je me suis
D'accord, donc le point de démarrage,
c'est ça.
C'est cette première expérience.
Voilà. Tous les musiciens qui étaient là me disaient, mais c'est extraordinaire, vous filmez tellement... Jamais on n'a été filmé comme ça. Alors j'ai dit, je vais continuer cette expérience, et j'avais envie de raconter l'histoire d'un pianiste, mais où, quand, comment, je ne savais pas encore.
D'accord.
Et en rentrant chez moi un soir, j'entends un pianiste qui tapait sur son piano, sur du Chopin, et j'étais écœuré, et je me suis dit, je ne peux pas laisser, j'ai une revanche à prendre sur ce type, il m'énerve. Donc j'ai écrit un soir 15 pages, comme ça, qui sont sorties vite, parce que les bonnes histoires, on les a tout de suite ou on les a pas. Ouais. Si ça ne traîne pas, si ça vient comme ça, c'est bon. Mmh. Et donc là, j'ai lu les 15 pages à Nelly Kavski, et Nelly m'a dit, ah ben moi là, j'y vais, quoi. Il n'y a pas de problème. Je dis, cinéma ? Elle me dit, oui, allons-y. Mais il a fallu ramener le projet à ce qu'il était l'essentiel, c'est-à-dire vraiment une histoire d'amour.
Alors justement, donc François Touraine, l'acteur principal, donc, est un jeune pianiste virtuose, qui tombe amoureux de...
Tout petit ?
Oui.
À 10 ans.
Voilà, qui tombe amoureux de sa prof de piano.
De celle qui va devenir sa prof de piano.
Celle qui va devenir, et un peu contre sa famille, quelque
oui,
part,
hein,
qui véhicule des valeurs, et vous parliez de Philippe Torreton tout à l'heure, qui est son papa dans le film, et qui, pour le coup, ne voit pas du tout le parcours de son fils dans la carrière d'un pianiste,
non.
Mais plutôt, on va dire, d'un industriel, ou en tout cas, dans le monde des affaires.
Ouais.
Et puis, au fil de l'eau, sa maman intervient, et elle essaye de lui faire comprendre que c'est quand même peut-être sa passion avant tout. Et là-dessus, donc, il va rencontrer donc Rachel, sa prof de piano, mmh. dont il va tomber amoureux.
Ouais.
Mais le problème, c'est qu'elle a une petite étoile jaune sur le cœur.
À un moment dans la vie,
voilà,
l'amour on rentre dans le hachoir de l'existence.
Et, oui.
Et surtout quand les dictatures viennent prendre
voilà.
le pouvoir.
Et donc, voilà, on précise que tout ça se passe au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà.
Et donc, du coup, elle va être évidemment... sans sanctionner, on connaît l'histoire, voilà.
Oui.
Alors sans trahir, donc, sans spoiler l'histoire, mais donc il va se passer un certain nombre de choses, un certain nombre de prises de décisions mm-hmm. qui vont faire que cette histoire va devenir une histoire d'amour plutôt à trois d'ailleurs, on peut dire, hein, mm-hmm. Voilà, puisqu'en fait va arriver au fil de l'eau un autre personnage qui s'appelle Annette. Voilà, et Annette va prendre des décisions, et on va s'arrêter là pour la présentation. Elle va prendre notamment une grande décision. Donc on précise quand même que ce pianiste, il est obligé de partir en Allemagne
oui.
pour, entre guillemets, sauver la peau de Rachel, sa chérie, hein, on peut dire
oui,
ça comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça, il a fait un choix, là.
Voilà, ça, c'est le fameux choix du
voilà,
pianiste.
Il l'a
hein,
fait
voilà,
là.
Voilà. Et puis, au-delà de ça, voilà, l'histoire continue, et il se passe un certain nombre de choses. On va s'arrêter là au niveau de l'histoire. On va repréciser un petit peu les personnages qui interviennent. On va citer le nom des acteurs et des actrices. Donc, le rôle principal a été attribué, donc, François Touraine,
Oscar.
À Oscar Lesage. Voilà. C'est un jeune comédien qui manque aujourd'hui de notoriété, mais je pense que vous allez être un contributeur direct pour l'émancipation de sa personnalité. En tout cas, le rôle est vraiment sur mesure pour ce garçon.
Ah oui, absolument.
Voilà. Pierre Lagrange, donc, qui incarne le rôle de Rachel.
Alors, ça, c'est une découverte aussi. Elle a très peu tourné.
Voilà.
Et vraiment... Elle a occupé le rôle d'une façon émouvante et intelligente. Quoi.
Tout c'est à fait. Rare. Tout à fait. Le rôle d'Annette donc est incarné par Zoé Adjani, qui est la nièce donc d'Isabelle
oui.
Adjani. Et puis après, bon, on peut détailler donc Philippe Torreton,
voilà.
Le premier rôle d'André Manoukian au cinéma, voilà.
Qui ressemble à Paul Paré, le personnage.
Qui Absolument, qui est un chef d'orchestre
oui.
donc dans
qui
le film.
Qui était une célébrité.
Donc ça, c'était la présentation du film. Dernière question, en fait, est-ce que vous avez une actualité?
J'ai déjà des scénarios écrits d'avance.
Hein.
Il
n'y
a pas, il y a pas, n'y a pas de problème par rapport à avoir des idées.
D'accord.
J'ai plutôt du stock, comme on dit.
Très bien. Jacques, on arrive au terme de cette interview. Et comme le veut la tradition à la radio du cinéma, je vais vous demander votre musique préférée, dans l'ordre d'ailleurs de votre film préféré, votre musique préférée et votre réplique préférée.
Alors, comme on a parlé de Max Ophüls, bien sûr, les films de Max Ophüls et la ronde de Max Ophüls que je regarde à chaque fois que je fais un film parce que je fais les plans séquences.
Le seul bonheur qu'on puisse avoir, c'est de se rencontrer sur sa route quelqu'un qu'on aime.
Vous m'aimez ?
Les maris ne peuvent pas toujours être des amoureux.
Ah. Tu as été l'amant d'une femme mariée.
La musique, c'est... Je ne peux pas dire que j'aime un film, j'aime une musique ou j'aime une réplique. J'aime Les Parapluies de Cherbourg et je me dis en même temps, mais pourquoi j'oublie Les Demoiselles Rochefort Les répliques
de Michel Legrand.
De Michel Legrand, pardon. Bien entendu. Passion pour Michel Legrand. Oui. T'as de beaux yeux, tu sais, quelle est brume. Avec,
ça, c'est la réplique.
La réplique.
Jean Gabin, Michel Morgan.
Voilà, c'est une merveille. À l'époque, j'étais très amoureux de. Quand j'ai découvert le film, j'étais amoureux de Michel Morgan. Et le cinéma de Marcel Carné, voilà.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Bien. Merci infiniment pour cette interview.
Mais les bons moments qu'on passe ensemble, c'est formidable. C'est la radio du cinéma. Bravo.